Le journal de Thomas Nagy.
Bonsoir. Le dialogue et la souplesse, ce sont les deux piliers qui devraient permettre à l'horlogerie suisse de faire face à ces difficultés de personnel. Pour répondre à la demande, 4000 professionnels devront être formés ces 3 prochaines années. Les syndicats montent au créneau après l'annonce du rachat de Crédit Suisse par UBS. Leur objectif, éviter un licenciement massif. Un tilleul connecté pour son bien, l'arbre de la place de la Liberté à Delémont a été équipé d'un capteur. Il doit permettre de surveiller l'état de santé de l'arbre. La soirée s'annonce calme malgré de nombreux passages nuageux. Le temps restera sec. Demain, retour d'une journée plutôt ensoleillée avec des maximales autour des 19 degrés en pleine, 14 dans les Franches-Montagnes. Une branche en pleine santé qui connaît des difficultés de recrutement, c'est le portrait un peu paradoxal de l'horlogerie. Selon la dernière enquête quinquennale de la Convention patronale de l'industrie horlogère suisse, d'ici 2026, près de 4000 personnes devront être formées pour parvenir à répondre aux demandes du secteur. Selon l'institution, cette augmentation s'explique par la bonne situation économique et les importants besoins de production actuels. Mais cela signifie aussi que le secteur se retrouve avec un énorme besoin de formation. La faute en partie à une communication qui pourrait être amélioré. Reto Schneider, fondateur de RS Partner à Neuchâtel, société spécialisée dans le recrutement de professionnels dans l'horlogerie.
Il n'y a peut-être pas encore assez d'interactions entre les autorités, certaines écoles qui devraient peut-être plus communiquer, mieux comprendre les attentes du marché aujourd'hui. Et c'est des mondes un peu différents, mais qui doivent fonctionner encore mieux ensemble pour le plus possible en amont faire ce qu'il y a à faire. On peut compenser par des ressources venant des pays voisins. C'est clair que le premier pays, c'est la France. Je dis souvent l'horlogerie, elle est franco-suisse. Qu'on le veuille ou non, on l'a aussi vu pendant le Covid. Et là, il faut, je pense, encore plus d'efforts au niveau des formations par les écoles, mais également en interne. Donc ça demande du temps et c'est vrai que c'est vite des chiffres importants.
Et autre difficulté, celle des changements d'orientation. Actuellement, la moitié des personnes formées quittent la branche. Le secteur horloger pourrait gagner à faire preuve d'un petit peu plus de souplesse, selon Jean-Diego von Almen, directeur marketing chez RS Partner.
Je pense que l'effet post-Covid a notamment fait réagir beaucoup de différents acteurs, notamment sur la modernisation des conditions de travail. L'horlogerie, la Suisse, hein, parfois est assez conservatrice. On voit maintenant certains acteurs qui se modernisent. Hein, je pense au télétravail, je pense aussi potentiellement au temps partiel. Ça prend du temps, mais c'est vrai que l'horlogerie a peut-être un petit peu plus d'inertie à ce niveau-là. Allez savoir, peut-être qu'il est bon de quitter pour mieux revenir.
Les syndicats montent au front après l'annonce du rachat de Crédit Suisse par UBS. Ils veulent à tout prix éviter un licenciement massif orchestré par les hauts dirigeants des deux entreprises. L'association des employés de banque et l'Union syndicale suisse soulignent que des dizaines de milliers de salariés vivent dans l'incertitude. Elles ont présenté aujourd'hui toute une série de revendications. Pierre-Yves Maillard, président de l'Union syndicale suisse.
Il n'y a pas de licenciement prononcé avant la fin de l'année, pour qu'on dessine d'abord les contours de cette nouvelle banque avant de décider quels sont les emplois qui disparaissent, et puis ensuite que ce processus soit vraiment intégré avec des représentants du personnel dans une task force où la Confédération aussi joue un rôle. Le plan social qui existe au Crédit Suisse et qui existe à l'UBS doivent être garantis et puis probablement adaptés à la nouvelle situation.
Pourquoi est-ce que la Confédération devrait s'impliquer dans ce processus?
Tout simplement parce que d'abord, elle investit de l'argent public. Si ça se passe mal, on perdra cet argent public. Donc pour que ça se passe bien, il faut encore une fois écouter ceux qui connaissent leur métier. Et puis deuxièmement, je rappelle que si jamais il y a des milliers de suppressions d'emplois, c'est bien la collectivité qui va assumer les charges avec l'assurance chômage. Donc je crois que c'est dans l'intérêt évident de la Confédération de poser des conditions pour que le personnel soit entendu et qu'on réduise l'impact sur les places de travail.
Des propos recueillis par notre correspondante à Berne, Marie Vuillemier. La question des réexportations de matériel de guerre en Ukraine doit être revue. Une commission du Conseil des États a suspendu l'examen de toutes les interventions sur ce sujet. Elle veut organiser des auditions sur la politique de neutralité suisse. Le processus de fusion entre Fontenay et Porrentruy tombe à l'eau. Le conseil communal de Fontenay a décidé de mettre fin aux discussions et travaux engagés en automne 2020 avec le chef-lieu à Joulot. Il l'annonce avec un profond regret aujourd'hui dans un communiqué. Dans notre société ultra-digitalisée, même les arbres se mettent au connecté. La ville de Delémont participe à un projet pilote orchestré par la Haute École du Paysage, d'Ingénierie et d'Architecture de Genève. Objectif, lutter pour la santé des arbres. Pour ce faire, le tilleul de la la place de la Liberté a été équipée d'un capteur. Valentine Heyman, responsable nature et paysage, explique le but de cette installation.
L'idée, après, ça sera de recevoir les données, comme je l'ai dit, directement sur le smartphone, de la vitalité et puis aussi l'état vraiment mécanique de l'arbre. Et puis, pour pouvoir agir, on voit que l'arbre manque d'eau ou l'arbre a peut-être un champignon ou vraiment pour prendre des mesures et puis suivre l'arbre plus précisément, disons.
Donc, c'est vraiment un système qui présente aucun risque pour les arbres.
Exactement. Donc, vraiment, l'objectif de ce système, c'est justement plutôt de maintenir l'arbre le plus longtemps possible en bonne santé. Disons, c'est vraiment un outil d'aide, il faut le voir pour le suivi. C'est vrai qu'on fait déjà un suivi assez précis avec les jardiniers au niveau des signes que peuvent montrer un arbre, mais il y a tout plein de données encore plus difficiles à voir visuellement qui se passe à l'intérieur de l'arbre. Et puis c'est cet outil qui nous accompagnerait dans nos diagnostics. C'est vraiment un accompagnement.
Des propos recueillis par Loïc Georgi. Pour l'instant, ces données sont confidentielles, mais si les résultats sont concluants, la ville n'exclut pas d'équiper plusieurs arbres de ce système à des endroits stratégiques. C'est un rendez-vous immanquable en Ajoie. Les patoisans d'Ajoie et du Clos du Doubs remontent sur scène dès ce vendredi dans une bande d'excités, une pièce écrite et mise en scène par Michel Chauffat, alias Lugène. En première partie, les chants de la chorale des patoisans avec des chansons traditionnelles et des adaptations du répertoire français. Audrey Chèvre enseigne le patois dans les écoles. Elle est aussi comédienne dans la troupe des patoisans d'Ajoie et du Clos du Doubs. Pour elle, la rencontre avec le public est un plaisir unique.
Je dois dire que déjà nous sur scène, il y a déjà bien de l'ambiance, mais aussi quand on commence de jouer, les gens sont vraiment toujours contents de revenir régulièrement. Des fois, cette impression que c'est la sortie de l'année, ils retrouvent des mondes, ils retrouvent, et c'est peut-être ça qui fait cette ambiance si sympathique.
Le patois, on l'apprend quand même toujours un petit peu quand on le donne en théâtre. Il a encore une autre saveur.
Oui, tout à fait, oui. Parce que sinon, ça ne se parlerait plus, s'il n'y avait que les gens qui l'avaient appris quand ils étaient petits. Donc moi, je suis très contente de pouvoir encore un peu jouer pour apprendre encore des mots. Et puis, j'aime bien dire qu'on peut toujours l'apprendre.
Des propos recueillis par Jean-Michel Probst. Début des représentations dès ce vendredi 24 mars et jusqu'au dimanche 2 avril à la salle de Cornoul. Le futur hôtel de Saint-Imier entre dans sa phase concrète. Les responsables de la construction et les autorités mériennes se sont réunis ce matin sur le chantier à côté de la gare pour marquer symboliquement la pose de la première pierre. Comme le veut la tradition, une capsule temporelle a été glissée dans les fondations. La nouvelle bâtisse comprendra 48 chambres de plusieurs standings et deviendra le premier établissement de la marque Ota Hôtel. Après un changement de site et plus de 5 ans de réflexion et d'adaptation, le promoteur hôtelier se réjouit d'aller de l'avant. Robin Chetla.
On a eu des challenges, mais chaque challenge a pu être surmonté et on a pu apprendre à travers chaque changement. Donc on parlait de la pollution initialement du côté du quai de la gare et au final on est maintenant au bord de ce parc avec un magnifique lieu de vie, un lieu de passage, un lieu où les familles pourront passer du bon temps et au final avec un bâtiment, avec un nombre de chambres légèrement plus important mais nettement plus qualitatif au niveau des espaces généraux et au niveau de la qualité aussi d'ensoleillement des chambres. Donc vous le verrez, on a quelque chose de très beau.
Il a aussi fallu convaincre la population imérienne que ce n'était pas sacrifier un espace vert pour du bétonnage.
Oui, effectivement. C'est le message initialement qu'on a voulu passer tout de suite parce que j'entends, on amène de l'hôtellerie quelque part. On a la chance d'avoir un métier qui est très proactif dans le développement économique et dans le développement social d'une région. Et grâce à un hôtel, on va permettre à des touristes, à des gens et à du business de venir dormir indirectement, de développer les petits commerces, de développer la restauration. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a eu un projet qui, architecturalement, a été intégré au patrimoine architectural de Saint-Imier. Toutes ces réflexions ont été faites dès le départ. On a considéré ces éléments-là de manière très habile également avec notre architecte Gilles Marchand. Donc je pense que le challenge a été affronté correctement.
Des propos recueillis par Natacha Mengoli. Selon le calendrier, le bâtiment en bois devrait être sous toit avant l'été. L'ouverture est prévue pour février-mars 2024. C'est l'une des affiches de festival les plus attendues de l'année, celle de Paléo. Et une fois de plus, il y en aura pour tous les styles et tous les âges à l'occasion de cette 46e édition. La grosse tête d'affiche, c'est sans conteste Rosalia. Les plateaux pop-rock seront, eux, composés de valeurs sûres comme Placebo, Chaka Ponk, Phoenix, Franz Ferdinand. Concernant la partie rap R&B, on aura les Black Eyed Peas, Aya Nakamura, Damso, Lompal, Big Flo et Oli. Pour la chanson française, il y aura les Indémodables, Indochine, Maxime Le Forestier ou encore Louise Attaque. Et même si si Paléo peut compter sur un public fidèle, le festival nyonnais doit faire face à la concurrence toujours importante en Suisse romande. L'inflation va aussi pousser les festivaliers à faire des choix. Le patron du festival, Daniel Rosselin.
Bon, il y a toujours une inconnue par rapport à la fréquentation. Comment est-ce que les gens vont se comporter? Quelle va être leur approche par rapport à un festival? Là, je note qu'il y en a un en plus à Vevey, mais un en moins à Vanche. D'abord, je considère que c'est plutôt une chance d'avoir une région où il y a autant de festivals. Je me rappelle quand on a fait le premier festival, ben, il n'y en avait presque pas. Puis aujourd'hui, ben, il y en a beaucoup. Tant mieux pour le public, tant mieux pour les artistes. Et puis, on verra bien. Nous, on reste relativement serein. Mais il y a toujours, bien sûr, un petit peu d'appréhension avant le moment où on met en vente les billets.
Et enfin, sachez que le Brésil sera l'invité d'honneur du Village du Monde de cette 46e édition de Paléo qui se tiendra à Nyon du 18 au 23 juillet prochain.
RFJ, il est 18h11.
Sport. Le HC Ajoie veut faire basculer sa série de play-out de National League à domicile ce soir. Les hockeyeurs jurassiens reçoivent Langnau à 20h avec une belle occasion d'égaliser à deux manches partout devant leur public. Une défaite les mettrait à l'inverse dans une position délicate et offrirait trois pucks de sauvetage aux Emmentalois. Le HCA tentera de capitaliser sur sa dernière victoire 3-1 à Langnau samedi dernier. Match qui a vu l'attaquant jurassien Thibaut Frossard revenir au centre après deux matchs infructueux à l'aile. Il s'est aussitôt mis en évidence avec deux passes décisives. Un poste qui lui convient beaucoup mieux, il ne s'en cache pas, Thibaut Frossard.
Ouais, c'est sûr que j'ai joué toute ma carrière au centre, donc voilà, si je peux aider l'équipe à l'aile, bah, je le fais volontiers. Bah, mon poste de prédilection, ça reste quand même le centre, donc c'est sûr que j'ai plus de repères. Ouais, je pense que j'arrive plus, je suis plus en mouvement, j'ai plus d'espace autour de moi, donc c'est ce que j'aime, l'espace, donc ouais, j'ai plus de repères à cet endroit-là, c'est sûr. Voilà, s'il faut jouer à l'aile pour aider l'équipe, bah, je le fais volontiers. C'est sûr que jouer presque toute la saison au centre, puis bah, aller à l'aile comme ça, c'est pas toujours facile, mais je pense que je me suis pas trop mal débrouillé malgré les deux défaites. Donc voilà, comme dit, je fais ce qu'on me demande de faire et puis ça va aller.
HC Ajoie Langnau, quatrième match des play-offs de National League à suivre en direct ce soir dès 19h45 sur RFJ avec Cyprien Lovie et notre consultant Michael Rotenmund. Très belle soirée.